France Inter.
Bonjour.
Здравствуйте.
Deux policiers viennent d'arriver dans le local sans même sonner à la porte.
Quoi, on a encore porté plainte contre nous ?
On nous signale des citoyens suspects. Vous avez des micros ici ? Une interview ?
Oui, une petite.
Je suis désolé, qui êtes-vous ?
Il y a journaliste.
Venez ici. Allez, allez. Puis-je voir vos papiers ?
C'est une parole rare que vous allez entendre aujourd'hui dans Interception, au micro de l'envoyé spécial permanent de Radio France en Russie. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, des Russes se confient sur leur vie au quotidien. Alors que le président américain Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour évoquer en direct des négociations de paix, la perspective de la fin du conflit n'a jamais semblé aussi proche et paraît malgré tout difficile à atteindre. Cette guerre, lancée par Vladimir Poutine le 24 février 2022, beaucoup la désignent toujours comme une opération militaire spéciale, selon la formule officielle du Kremlin. D'autres, depuis le début, disent leur opposition au risque d'être arrêtés. Vous venez de l'entendre, la police russe est partout, elle s'est invitée au cœur de ce tournage. Dans ce reportage, Sylvain Tronchet a pris le pouls de la société russe et il a recueilli des paroles souvent tues. Des opposants témoignent à son micro, mais aussi des combattants russes envoyés sur le front ukrainien.
Radio France, essayons votre télégramme. En novembre 2022, je me suis porté volontaire pour l'opération militaire spéciale. Ce n'est pas ma première guerre. La Russie restera toujours debout. Parce qu'il y a suffisamment de patriotes russes, je crois.
Dans la Russie en guerre, depuis 3 ans, chacun a choisi son camp. Alors que la paix se profile peut-être, Interception vous raconte comment les Russes vivent ce conflit à la fois omniprésent et presque invisible pour eux. Il y a ceux qui le soutiennent, ceux qui résistent et ceux qui regardent ailleurs. Les Russes veulent-ils la guerre ? C'était le nom d'une chanson pacifiste très populaire sous l'URSS. Et c'est la question que Sylvain Tronchet a posée aux Russes d'aujourd'hui dans ce reportage qu'il signe avec Anastasia Sedoukina.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Je suis dans le centre de Moscou, dans un local qui ressemble à une grande boutique, hein, avec des fenêtres qui donnent sur la rue. C'est un lieu associatif qui accueille des activistes, des militants, où ils peuvent venir chercher du soutien psychologique, juridique. C'est un lieu rare en Russie aujourd'hui, hein, alors que la répression est plus forte que jamais, hein, depuis la fin de l'URSS. Ce soir, cet Open Space, c'est son nom, hein, accueille une soirée d'écriture de cartes postales aux prisonniers politiques. Recevoir du courrier, c'est à peu près le seul droit qui leur reste. Alors j'entre dans la deuxième salle. Et là, à une table, en train d'écrire, il y a une jeune femme à l'allure d'étudiante. C'est Yekaterina, et c'est elle que je viens voir.
Je m'appelle Ekaterina, j'ai 23 ans. Je suis engagée dans l'activisme social et politique et dans la politique russe en général. J'ai déjà choisi d'écrire à 2 ou 3 filles. Elles sont accusées de trahison d'État. Naturellement, leurs affaires sont classées secrètes. Mais j'écris surtout aux femmes parce que, je ne sais pas, je veux les soutenir un peu plus que les hommes. Je ne sais pas, j'aime écrire aux femmes. La chose la plus importante, c'est de faire en sorte que ces personnes ne soient pas abandonnées, livrées à elles-mêmes. Parce que quand vous êtes en prison et que vous ne recevez aucune nouvelle, que vous êtes seul, vous doutez, vous dites peut-être que j'ai eu tort, puisque personne ne m'écrit et que personne ne me soutient. C'est comme ça que ça se passe. C'est un énorme facteur de dépression quand un prisonnier ne reçoit pas de courrier. Ça entraîne un profond sentiment de solitude, d'isolement, alors que ce n'est pas une fatalité. Donc, nous devons soutenir ces personnes, être là pour elles, dans la mesure du possible, leur dire que nous soutenons leurs idées et que nous continuerons à le faire aussi longtemps que nous le pourrons. Leur dire oui, vous avez raison, ne doutez pas une seconde que ce que vous avez fait est juste, pour qu'ils ne regrettent jamais leurs actes et ce pourquoi ils ont été condamnés.
Dans la salle autour de moi, il y a une trentaine de personnes de tous âges. Et je dirais qu'on sent bien qu'on est au milieu des moscovites libéraux, pas parmi les soutiens de Vladimir Poutine. Ils viennent donc écrire aux opposants emprisonnés. C'est légal, mais ce n'est pas sans risque. La police, des groupes ultranationalistes viennent parfois perturber ce genre de soirée. Pendant qu'on parlait avec Ekaterina, il y a Anastasia, l'organisatrice de cette soirée, qui est venue nous voir.
Je m'inquiète pour les personnes qui viennent, surtout pour les mineurs. Il y a aussi des grands-mères. Je ne voudrais pas qu'on les mette face contre terre, et je sais qu'on met les gens face contre terre ici. On est sur un sol en béton, il fait froid. Mais d'un autre côté, chacun calcule ses propres risques. Il faut avoir un certain courage, une certaine conscience de la situation, en sachant qu'on peut être emprisonné. Mais peut-être que tout le monde n'y pense pas, parce qu'après tout, ça fait longtemps que la police n'est pas venue. Mais il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Ça, je le sais avec certitude, parce que je les connais personnellement.
Ekaterina, vous ne craignez pas de venir à ce genre de soirée, et plus généralement même de faire partie de la petite frange de la population russe qui cherche encore à montrer son opposition à la guerre, son opposition au pouvoir. Mais ce n'est pas sans risque. Il y a des arrestations, des condamnations quasiment tous les jours aujourd'hui dans le pays. Le niveau de répression aujourd'hui, ce n'est pas celui de la période stalinienne, mais c'est comparable à l'époque Brejnev. Pourquoi prenez-vous ces risques ?
Le 24 février 2022 a radicalement changé ma vie. Je suis sortie manifester le 24 février et j'y suis allée tous les jours. Une fois, j'ai été arrêtée. J'ai passé la nuit au poste de police. Ça a probablement été le tournant, je pense, cette nuit en détention. J'ai alors décidé de donner la priorité à mon devoir citoyen sur ma vie personnelle. Avant la guerre, je n'étais qu'une observatrice. Après le début de la guerre, j'ai commencé à m'impliquer activement. J'ai d'abord rejoint des mouvements et des associations d'activistes. J'ai été invitée à agir sur différents projets, diverses initiatives simples, certaines petites actions qui montrent que vous n'êtes pas d'accord et que vous n'êtes pas seul. Il y a le soutien aux prisonniers politiques, la rédaction de quelques appels. Il y a la grève italienne, par exemple, c'est-à-dire que vous inondez les autorités de documents disant « ce n'est pas vrai, ça ne va pas ici, ça ne va pas ici, ça ne va pas ici ». C'est donc aussi une petite protestation. J'écris des messages sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos. Nous faisons aussi des actions éducatives, des sortes de cours, pour ainsi dire, sur différents sujets concernant l'exercice de la démocratie et contre la guerre. C'est cela que nous pouvons faire pour nous opposer à l'État. Pour essayer de créer une communauté, quelque chose pour réunir, relier les gens, pour construire des liens horizontaux entre nous. Il y a beaucoup d'actions de ce genre, pas nécessairement des choses radicales, mais tournées de telle manière qu'elles soient compréhensibles au niveau local.
J'ai toujours été consciente du niveau de risque,
hier comme aujourd'hui.
Mais j'assume cette responsabilité, la responsabilité de mes actes, avec tout le danger que cela représente à l'heure actuelle. Eh bien, j'accepte. Je ne discute pas vraiment de cela avec mes parents parce qu'ils seraient très inquiets. Je n'ai pas besoin de cela. Ils ne savent même pas que j'ai été détenue. Je ne leur ai pas dit. Je ne pense pas qu'ils accepteraient cela parce que c'est très dangereux. J'ai confié à une personne plus âgée de ma famille que je m'impliquais dans la politique et cette personne est devenue extrêmement inquiète. Tu seras tué comme Navalny, comme Nemtsov, tu ne peux pas, c'est très dangereux. Alors que je n'ai révélé que 5% de tout ce que j'ai fait. Donc je ne dis rien. Parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. D'un autre côté, je pense que ce n'est pas juste, car s'il m'arrive quelque chose, ce sera un coup très dur pour eux. Je ne sais donc pas encore comment résoudre ce problème. Je pourrais aller en prison aujourd'hui même, sur dénonciation ou autre chose. Ces risques sont toujours présents et je planifie ma vie sur 24 heures environ. C'est-à-dire que je ne planifie pas au-delà d'un jour. Si la journée s'est bien passée et que tout va bien, c'est parfait. Si j'ai fait quelque chose, c'est encore mieux. Je ne me projette pas. Mais nous continuerons à nous battre, et tôt ou tard, notre lutte portera ses fruits. J'en suis sûre à 1000%.
Ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis correspondant à Moscou. Je suis arrivé 5 mois avant le début de la guerre. Et malgré la répression, depuis 3 ans, je vois toujours des opposants, des gens qui osent dire qu'ils sont contre cette guerre. Mais en général, contrairement à Yekaterina, ils demandent à rester anonymes. Alors je vais voir Yulia maintenant. C'est le prénom qu'elle a choisi. Yulia, je la connais. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était il y a 2 ans, chez elle, en grande banlieue de Moscou. À l'époque, comme beaucoup d'opposants, elle m'avait dit qu'elle n'avait qu'une envie, depuis le premier jour de guerre, c'était de quitter la Russie.
Hi, how are you?
Yes,
me too. Okay, so let's go.
Yes. It's nice place.
Possible, yes, please. 2 ans après, donc, Yulia est prof d'anglais et elle est toujours en Russie.
Nous avons décidé de rester en Russie. Au départ, on n'avait pas l'argent pour partir, mais finalement, je suis contente que nous n'ayons pas eu cet argent. J'ai réalisé que je devais rester ici. D'abord parce que ma famille est ici et ne veut partir nulle part. Notre famille a été touchée par les combats, oui. Des combats causés par mon pays essentiellement. Et je me sens responsable, je dois faire quelque chose. Même si les personnes qui sont parties continuent de nous écrire qu'il ne faut pas se taire, je pense que c'est une erreur. Au contraire, je me tais maintenant. Avant, je m'exprimais ouvertement sur Facebook. J'y écrivais que j'étais pour la paix, que j'étais contre la guerre. J'ai arrêté d'écrire.
Parce que je suis directement impliquée dans l'aide aux personnes touchées par la guerre. Et je pense aujourd'hui que c'est plus important d'aider que d'aller sur la place rouge avec une pancarte, d'aller en prison ou de partir du pays. J'ai vraiment réalisé que je devais rester ici pour aider les personnes qui ont souffert de la guerre, les réfugiés. C'était une décision pleinement consciente. Mon père, lui, soutient la guerre. Mon oncle de Mariupol soutient la guerre, activement, avec agressivité. Ils disent carrément que les Ukrainiens ne sont pas des humains, que les Ukrainiens ne forment pas du tout une nation, qu'ils doivent être éliminés, qu'ils doivent être détruits. Dans ma famille, il y a des réfugiés de Donetsk, dans le Donbass, qui sont pro-russes et qui, même après la destruction de leur maison, soutiennent la Russie. Mais bien sûr, moi, j'essaie de les traiter avec beaucoup de tact et de douceur. Pour moi, il s'agit avant tout de personnes qui ont souffert. Je les considère comme des personnes malades, des malades mentaux. Et je crois que même s'il est vrai de dire que la plupart des gens sont indifférents ou soutiennent la guerre, je suis persuadée que l'avenir du pays est entre les mains des gens comme moi. Parce que nous sommes des leaders, nous savons où nous allons. Nous savons exactement de quel type de pays nous avons besoin. Et je pense que ce genre de personnes, peut-être plus jeunes que moi, les jeunes, conduiront tôt ou tard là où nous devons aller. Et la majorité les suivra de toute façon. En tant qu'enseignante, j'observe les adolescents, car je n'enseigne pas seulement dans cette école. J'ai d'autres élèves. Les adolescents voient très clairement qu'on essaie de leur imposer quelque chose et ils s'en détournent. Je pense que le bon sens l'emportera chez eux, chez nos jeunes, et qu'ils refuseront cette propagande. Ils se rendent compte qu'elle est fausse et si agressive, trop agressive. C'est ce que j'espère.
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские? Хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Les Russes veulent-ils la guerre? C'est le titre de cette chanson pacifiste qui date de 1961. Aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible, de savoir quel est l'état réel de l'opinion publique en Russie. Boris Nadiejdine, qui avait tenté de se présenter à la présidentielle comme candidat anti-guerre, estime lui-même qu'il y a au maximum 15 à 20% de Russes vraiment opposés à la politique de Vladimir Poutine. Et les enquêtes de Levada, le seul institut de sondage indépendant en Russie, montre que le taux d'approbation du pouvoir a augmenté depuis le début de la guerre, 87% d'approbation pour Poutine en janvier 2025. Nous allons maintenant partir à la rencontre des Russes pro-guerre et pro-Poutine. Sylvain Tronchet nous embarque avec des vétérans patriotes.
Interception sur France Inter.
Je suis place de la Loubianka à Moscou, face au monument des victimes de la répression sous l'Union soviétique. C'est un lieu emblématique, hein. C'est là que les gens, par exemple, sont venus déposer des fleurs le jour où on a appris la mort d'Alexeï Navalny. Et puis si je lève un peu les yeux, au loin, j'aperçois un immense bâtiment très massif dans les tons jaune-orange. C'est le siège du FSB, le Service fédéral de sécurité, l'héritier du KGB qui était déjà installé là. Symbole de la répression, hier donc, et aujourd'hui encore. Symbole d'un pouvoir qui s'appuie sur ce que l'on appelle ici les structures de force, la police, le FSB, l'armée, Parler de cette emprise des services de sécurité, de l'armée sur la société est difficile en Russie. Parler de la guerre aussi, et pour être honnête, c'est même dangereux potentiellement quand on est un journaliste occidental. Mais pour en parler quand même, je vais aller pas très loin d'ici, au siège des vétérans de Russie, un mouvement d'anciens militaires, pas tous anciens d'ailleurs.
Башкатов Виктор Викторович.
Je suis Виктор Викторович Башкатов. Je suis le chef du bureau central du mouvement des vétérans de Russie.
Alors nous sommes donc dans le bureau de Viktor Bashkatov. Sur la table, là en face de moi, il y a un atlas de l'armée russe qu'il a ouvert à la page France, spécialement pour moi. Dans un coin, il y a des cartons, là. Ce sont des colis hein, pour les soldats qui combattent en Ukraine. Et puis, au porte-manteau, je vois une veste militaire avec l'insigne de la brigade des vétérans de Russie sur la manche. Sur cet insigne, il y a le visage de Vladimir Poutine et la devise « Nous sommes la Russie, la force de Poutine ». Tout est dit.
Notre organisation existe depuis 2012. Nous avons d'abord été un parti de vétérans russes, puis nous sommes devenus le mouvement des vétérans de Russie. Nous intervenons largement dans les médias, car nous avons chez nous un grand nombre d'experts, de spécialistes. Nous nous exprimons sur les projets de loi, nous aidons les combattants qui reviennent du front. Ils peuvent bénéficier de bonnes formations, gratuites, dans une université publique de qualité. Parce qu'ils ne vont pas juste devenir des comptables. Ceux qui reviennent de là-bas ont une compréhension totalement différente de la structure de l'État et de la justice. Ils rentrent avec des valeurs totalement différentes et plus exigeantes, parce qu'ils sont endurcis par la vie et par le destin. Ils ont de l'expérience et des connaissances. C'est la raison pour laquelle on devrait aussi les impliquer dans l'administration publique.
Donc il y a ceux qui reviennent, mais il y a aussi ceux qui y sont. Viktor Bashkatov tient d'ailleurs à ce que nous appelions son président, Ildar Reziapov. C'est un ancien soldat de 45 ans, mais il est actuellement en Ukraine, quelque part dans le Donbass, parce qu'il a décidé de rempiler.
Allô ?
C'est quoi le problème ?
La connexion ne marche pas.
Il n'y
a pas de connexion Telegram. Il n'y a que le téléphone. Le téléphone normal fonctionne.
Allô ?
Allô ?
Vous m'entendez ?
Non.
Allô, allô.
J'ai du réseau.
Плохо связь, да, плохо связь.
Mauvaise connexion ici.
Donc
ici, vous le savez probablement aussi, l'Internet ne fonctionne pas très bien. Et la connexion, c'est le prix à payer. Oui ?
Radio France, essayons votre télégramme.
Il va vous appeler maintenant.
Je vais essayer d'appeler par là.
Allô. Вот, вот, ура.
Voilà, voilà, on a réussi. En novembre 2022, je me suis porté volontaire pour l'opération militaire spéciale. Ce n'est pas ma première guerre. Je suis un vétéran des opérations de combat dans le Caucase du Nord, un participant du printemps de Crimée. Lorsque l'opération militaire spéciale a commencé, en tant que responsable d'une organisation publique associée à la communauté des vétérans, je ne pouvais pas rester à l'écart. Et ma tâche principale était d'aller, avant tout, défendre ma patrie. Et je tiens à dire qu'en avril, j'ai été blessé au combat. J'ai quitté l'hôpital en mai de cette année et on m'a vissé 4 boulons dans la colonne vertébrale. Ce qui est bien, c'est que je marche. Je peux me déplacer, si Dieu le veut. Aujourd'hui, je suis commandant adjoint de la brigade de reconnaissance et d'assaut vétérans pour le travail militaire et politique. Il s'agit d'un corps de volontaires de forces armées de la Fédération de Russie.
Alors, ça, c'est votre rôle sur le front aujourd'hui, mais vous continuez à présider le mouvement des vétérans de Russie. Quel est votre rôle là, à l'arrière, loin du front ?
Il s'agit avant tout de lutter contre les personnes qui ont quitté le territoire de la Fédération de Russie au début de l'opération militaire spéciale et qui critiquent les autorités de l'État, notamment en critiquant la société civile de la Fédération de Russie. Nos signalements visent à faire appliquer la loi. En effet, ces personnes doivent être poursuivies par les autorités administratives, la justice pénale et être considérées comme des agents étrangers. C'est une noble cause pour nous, pour les patriotes, pour les citoyens de la Fédération de Russie. Car si ces personnes comprennent mal les buts et les objectifs de l'opération militaire spéciale, eh bien, on va leur expliquer et leur rafraîchir la mémoire. Bien qu'il y ait des traîtres depuis des temps immémoriaux, ils ont toujours été là, toujours été là. La Russie restera toujours debout, parce qu'il y a suffisamment de patriotes russes, je crois.
Voilà, et donc là, Viktor Bashkatov, dans le bureau, hein, allume son ordinateur pour nous montrer comment les vétérans de Russie traquent et dénoncent ceux qu'ils considèrent comme des traîtres.
Nous disposons d'un vaste réseau d'experts dans les régions. Ils prennent connaissance de toutes les interviews, de tous les commentaires, les vidéos. Hier encore, nous avons envoyé un signalement en demandant d'engager des poursuites pénales pour discréditer des forces armées. Les personnes publiques, vous savez, exercent une certaine influence sur la population. Elles doivent se sentir responsables vis-à-vis de la société, en particulier si elles sont citoyennes de la Fédération de Russie. Elles doivent être pleinement responsables de leurs propos, à qui elles parlent, comment elles parlent. Et surtout, elles devraient se préoccuper de notre jeune génération qui les regarde comme des exemples. Voilà, hier encore, Lyova, le chanteur du groupe Bitva, a publié une photo d'un combattant avec des béquilles et une prothèse. Et il se moque. Il se moque. Cet homme est un traître. Il se moque de nos combattants. Or, ils doivent être respectés. Tu es un citoyen russe. Tu as gagné de l'argent en chantant dans notre pays. Maintenant, tu as une vie confortable. Tu peux vivre tranquillement à l'étranger et dénigrer l'honneur et la dignité de nos combattants. Mais vous ne parviendrez pas à le faire. Pourquoi ? Parce que les vétérans de Russie montent la garde.
Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Полковнику никто не пишет.
Donc ce chanteur dénoncé par les vétérans de Russie est en exil, hein, en Israël a priori, donc lui ne craint rien, mais les dénonciations concernent aussi parfois de simples citoyens hein, qui ont eu le malheur de se prononcer contre la guerre en public ou sur les réseaux sociaux. Certains ont été condamnés à des peines de plusieurs années de prison. On va repartir, mais avant cela, Viktor Bashkatov saisit un tas de feuilles sur son bureau. Ce sont des lettres que les enfants d'école de Moscou ont écrites pour les combattants russes en Ukraine.
Les gars sur le front lisent toutes ces lettres avec les larmes aux yeux. C'est tellement important pour eux. Au début, vous savez, je pensais que ce n'était pas à ce point-là. Et puis j'ai vu que quand elles arrivaient, c'était encourageant pour eux. Vous voyez ? En voilà une, par exemple. Chers soldats, vous rendez notre avenir lumineux. Que votre engagement soit couronné de succès. Que vos amis vous soient fidèles dans la vie. Qu'est-ce qui est écrit ? Nous avons hâte de vous revoir dans cette famille qu'est notre patrie. C'est signé Ira. C'est probablement une fille de classe de quatrième. Dès la maternelle, les enfants comprennent tout parfaitement. Il est impossible de les tromper. C'est ça la nouvelle génération.
Le socle populaire sur lequel s'appuie le pouvoir russe est bien connu ici. Ce sont des personnes âgées, nostalgiques de l'URSS, des fonctionnaires, des personnes dépendantes des aides d'État, des Russes de milieu populaire plus généralement. Alors pour les rencontrer, il vaut mieux quitter Moscou. Je prends le train donc pour Riazan, à 200 km au sud-est. Je suis déjà venu ici pour voir notamment les tombes de soldats qui s'accumulent dans les cimetières de la région. Mais aujourd'hui, je viens voir Elena, une femme de 56 ans qui est une figure locale. Elle vient nous chercher à la gare.
Je m'appelle Elena Samsonkina, je suis présidente de l'organisation caritative La Main Tendue dans la ville de Riazan. On va s'installer là autour de la table. Je vais vous parler un peu de l'entrepôt et puis après on va prendre une tasse de thé quand les filles seront réunies. Vous avez voyagé, vous aussi. Vous voulez une tasse de thé? Ça vous réchauffera, oui. Oui, toutes les filles volontaires vont venir bientôt, car je leur ai dit d'être là à 11h. On va mettre les tasses ici. Ensuite, on va s'asseoir et on aura une conversation tranquille, d'accord?
Ok.
Où puis-je me laver les mains?
Passons par là. Nous avons ici un stock de vêtements, un endroit où viennent des femmes, des familles avec des enfants, des familles avec beaucoup d'enfants, des nécessiteux. Vous voyez, nous avons tout ce qu'il faut pour les enfants, des poussettes, des lits de bébés.
Elena, vous avez 2000 bénéficiaires. Vous aidez des gens modestes, des gens pauvres, pour qui la vie est difficile. Est-ce que vous diriez, d'une façon générale, que la vie est dure en Russie?
Dans les années 90, il n'y avait pas de stabilité. Il y avait du chômage, les salaires et les retraites n'étaient pas payés. Les gens ont donc survécu du mieux qu'ils pouvaient. Certains, comme des ingénieurs, parfois sont allés travailler comme vendeurs sur les marchés, comme concierges, pour survivre tant bien que mal. Parfois, on te payait même en nature. Si tu travaillais dans une usine, dans un atelier de confection, tu étais payé avec des chemises de nuit, par exemple, ou des culottes. Ou des choses comme ça. C'est pourquoi, lorsqu'on me dit aujourd'hui quel malheur nous arrive, je réponds, nous avons survécu aux années 90. Ces années nous ont rendus plus forts parce que nous les avons affrontées et nous y avons survécu. Et maintenant, je vois que les retraites sont payées, que les salaires sont payés. Globalement, ma vie s'est améliorée. Mais il n'y a que les pleurnichards qui pleurnichent, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils sont. Mais sinon, tout va bien, tout est merveilleux.
D'où ma question, voilà, d'où ma question à toutes, au fond. Est-ce que vous estimez que le gouvernement...
Bonjour.
Здравствуйте. Deux policiers viennent d'arriver dans le local, sans même sonner à la porte.
Quoi, on a encore porté plainte contre nous? Probablement nos voisins qui disent que nous avons des cafards. Qu'est-ce qu'on a maintenant?
On nous signale des citoyens suspects.
Quels citoyens suspects? Nous prenons le thé, nous prenons le goûter. Encore des voisins.
Vous êtes la main tendue?
La main tendue.
Vous êtes la fondatrice?
Je ne suis pas la fondatrice, je suis la présidente.
Qu'est-ce qui se passe ici?
On prend le thé.
Juste du thé?
Oui, asseyez-vous, on peut vous donner du thé aussi. Lequel d'entre nous est suspect? Dites-nous.
Vous avez des micros ici? Une interview?
Oui, une petite.
Une interview?
C'est interdit?
Non, non, nous allons juste faire un rapport sur le matériel. Voir ce qui se passe ici, et c'est tout. Je suis désolé, qui êtes-vous?
Il y a journaliste.
Venez ici. Allez, allez. Puis-je voir vos papiers?
Oui, bien sûr.
Pourquoi?
Juste pour vérifier.
Nous aussi, on doit présenter nos papiers.
Qui d'autre est journaliste? Vous êtes seul?
Je l'accompagne.
Accompagné?
Et ça vient d'être signalé aujourd'hui, tout de suite?
Oui, c'est ça.
C'est dingue.
Je peux prendre une photo du passeport? Vous avez un visa? Oh, vous vivez à Moscou?
Oui, je suis correspondant, c'est écrit.
Sylvain Serge, c'est ça?
Oui, c'est moi.
Votre enregistrement.
Donc les policiers repartent, certains d'entre nous ont signé des positions. C'est pas la première fois, hein. Je croise les forces de l'ordre en reportage. Hein. J'ai même déjà eu un agent du FSB qui m'attendait à la descente du train une fois. Officiellement, donc, ceux-là cherchaient des personnes suspectes. Hein. Bon, ils étaient peut-être aussi venus nous envoyer un message, hein, du genre « nous savons où vous êtes », un coup de pression, hein, comme on en reçoit parfois. Bien. Elena peut continuer, donc, sur son thème favori, qui est aussi celui de Vladimir Poutine, la stabilité.
L'opération militaire spéciale dure déjà depuis 3 ans. Au cours de ces 3 années, nous n'avons pas ressenti de crainte ni de pression très forte. Je veux dire que nous avons des salaires stables, des retraites stables, un approvisionnement en médicaments qui fonctionne, des enfants qui vont à l'école, des universités qui fonctionnent. Les usines ne ferment pas et on en ouvre au contraire. Il n'y a pas de grève, les transports fonctionnent. Nous pouvons aller n'importe où en vacances. Beaucoup de gens voyagent à l'étranger, comme ils voyageaient avant. Donc, c'est possible. Nous ne sommes pas dans la situation où nous nous disons « Merde, il y a eu une guerre et maintenant nous sommes tous enfermés à Rizan, nous ne pouvons aller nulle part ». Personnellement, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit qui se soit détérioré chez nous. La guerre, bien sûr, c'est une mauvaise chose. Et nous sommes contre la guerre sous toutes ses formes. Mais nous soutiendrons l'opération militaire spéciale et nous soutiendrons notre président. Parce que ceux qui ont commencé sont contre la Russie. Ils veulent nous asservir, nous opprimer. Ils veulent nous faire disparaître, nous effacer de la surface de la Terre. Donc, naturellement, nous sommes contre eux. Naturellement, puisque Poutine va dans ce sens, nous sommes pour lui parce que nous sommes citoyens de notre propre pays et nous voulons pouvoir vivre dans notre propre pays. Nous ne voulons pas avoir des troupes de l'OTAN, nous ne voulons pas rejoindre l'OTAN. Nous voulons avoir notre propre pays et ne dépendre de personne. Comment ne pas être patriote? Puisque nous sommes nés ainsi, nous sommes des Russes.
Au bout de la table où nous sommes installés, hein, sur laquelle Elena a apporté le thé et les pirojki, hein, les petits gâteaux, il y a Valentina qui nous observe en silence depuis le début de la conversation. Valentina, c'est la babouchka de l'assistance, la grand-mère, c'est même la prababouchka, l'arrière-grand-mère. Comme tous les Russes de sa génération, elle reste profondément marquée par la Deuxième Guerre mondiale.
Je suis née en 1939, je viens d'avoir 86 ans. Je suis une enfant de la guerre, on peut dire. Je ne me souviens pas de mon père. Il est parti à la guerre, j'avais quoi, 3, peut-être 4 ans. Je me souviens qu'on avait très faim. On ramassait des pommes de terre pourries et on les mangeait. Certains d'entre nous mangeaient de l'herbe, du pourpier sauvage. Chacun avait ses difficultés, mais on a survécu. Aujourd'hui, il m'arrive de me souvenir de tout ça et de me dire « Mais pourquoi vivons-nous encore une fois cette guerre ? Qui dérangeons-nous encore et toujours par notre existence ? Nous ne faisons pourtant de mal à personne. On a été attaqués par les Allemands, par les Français, et maintenant par les Ukrainiens. » Vous savez, la guerre,
c'est
toujours la guerre, que ce soit contre les Allemands ou les Ukrainiens. La guerre est la guerre, et puis c'est tout. Ce sont des occupants, et ils veulent nous faire plier, mais ça n'arrivera jamais. Je crois en notre peuple.
Alors, je vais me rapprocher d'Ina, qui est aussi installée avec nous autour de la table. Ina est une bénévole de l'association d'Elena, et c'est aussi... d'abord, une de ses bénéficiaires.
Je m'appelle Ina Chagayeva, j'ai 40 ans et j'ai une fille qui est handicapée. Je suis avec mon enfant 24 heures sur 24. Elle ne peut pas aller à l'école maternelle. J'essaie de ne pas me mêler de politique, surtout pour moi, c'est d'abord la santé de mon enfant qui est importante en ce moment.
Donc vous restez loin de la politique, mais quand il y a des élections, vous allez voter ?
Naturellement, mais nous choisissons, vous savez, la personne que nous allons suivre, qui va nous diriger. Si nous l'avons choisi, nous lui faisons confiance pour des questions que nous ne maîtrisons pas. Nous lui faisons confiance en tout, puisque nous l'avons désigné. Et les statistiques montrent que 80% des gens soutiennent notre président. Cela signifie que nous lui avons confié ces questions majeures. C'est sa compétence, oui.
Il y a donc les fidèles du Kremlin et les opposants. Et cette atmosphère de paranoïa exacerbée par la guerre en Ukraine, avec la propagande du pouvoir permanente depuis 3 ans. Certains s'en moquent totalement, s'en détournent même, et préfèrent ne pas avoir d'avis sur la guerre. Ils regardent ailleurs, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont accaparés par les difficultés de la vie, soit par absence totale d'empathie. Pour certains, depuis 3 ans, malgré les bombes qui détruisent des immeubles, des écoles et des hôpitaux en Ukraine, la vie en Russie est restée inchangée, elle est même légère, comme dans cette soirée moscovite où nous emmène Sylvain Tronchet.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
La Russie est en guerre, mais Moscou reste une fête. On pourrait résumer comme ça cette étrange situation où la guerre n'existe finalement que sur les panneaux d'affichage et à la télévision, que personne ne semble regarder, surtout pas en tout cas Anna et Valeria, qui vont m'emmener maintenant dans une soirée moscovite. C'est leur spécialité. Elles sont influenceuses sur Instagram.
Вот, вот она.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Лера.
Я Сильван. Очень приятно.
Приятно. Приятно.
Мы думаем, можем пройти?
Да.
Добрый день.
Bonjour. Меня зовут Полякова. Je m'appelle Anna Polyakova. J'ai 26 ans et je tiens un blog sur Moscou qui s'appelle Banana Blog.
Bonjour à tous, moi c'est Valeria Savchenko. Je tiens le Banana Blog avec Anna.
Banana Blog.
On est donc dans un quartier très légèrement à l'extérieur du centre de Moscou. On passe un contrôle de sécurité et puis on entre dans un club, en fait c'est un restaurant-club qui fonctionne quasiment 24 heures sur 24. Lumière tamisée, ambiance cosy, c'est pas mal. Il y a déjà pas mal de monde aussi et Anna connaît bien.
Ici, il y a beaucoup de vidéastes, de photographes, de mannequins, de stylistes, des personnes créatives qui exercent des professions intéressantes. C'est le charme et l'ambiance de cette fête. Là, on discute sur de la musique à la mode, tout le monde commence à socialiser, à commander un verre, et puis après on dansera comme des fous.
Si
je devais donner une image de Moscou, pour moi, ce serait une fille incroyablement belle, qui travaille très dur, mais qui s'amuse toujours. Parce que tout est possible ici. Je ne ressens aucune limite.
En même temps, il y a vraiment cette liberté qui fait que quand vous sortez dans la rue, vous pouvez être qui vous voulez, porter n'importe quel vêtement, être coiffé comme vous en avez envie, avoir la manucure que vous voulez. Vous pouvez vous exprimer comme cela vous chante, parce qu'il y a tellement de gens si différents. C'est très cool.
Когда
Quand des étrangers viennent, ils sont traités encore plus spécialement, parce que c'est devenu si rare. Donc vous voulez leur montrer, peut-être même trop, que tout va très bien ici. Nous comprenons tous que la réalité est ce qu'elle est. Mais pour qui veut être heureux et s'amuser, il faut venir ici. Si on vient ici avec une attitude positive, il n'arrivera rien. On ne se fait pas voler ici, alors que beaucoup de nos amis qui sont allés en Europe se sont fait voler. En Espagne, par exemple, on ne peut pas se promener avec un téléphone. À Barcelone, il faut l'accrocher sur soi pour ne pas se le faire voler. Ça n'existe pas à Moscou, ça. Nous ne sommes pas très portés sur les questions politiques. Nous prenons nos distances avec ça. Nous avons étudié pour devenir chanteuse, donc tout est dit. Nous n'avons pas peur. On ne craint rien. Pour nous, c'est tranquille, tout va bien. Je dis nous parce que je parle aussi pour ma copine, on se connaît bien. On n'est pas du genre à se dire merde, et s'il arrivait ceci, et s'il arrivait cela. Non, nous vivons en paix. On a parfaitement conscience de la situation qui nous entoure, objectivement. Mais pour nous, il n'y a pas de danger, donc on se sent à l'aise.
Je ne remarque pas d'affiches ou quoi que ce soit de ce genre. Je crois qu'à Moscou, ça n'existe pas. Peut-être qu'il y en a, mais j'y prête pas attention parce que je suis dans mes pensées, dans mes affaires, dans mes soucis, comme je pense tous les habitants de Moscou. Ils sont simplement absorbés par leurs activités. C'est pourquoi ils ne se préoccupent pas du reste. Concrètement, je n'ai rien vu, rien noté. Aucune propagande. Je vois rien, je remarque rien.
Les Russes veulent-ils la guerre ? C'était un reportage signé Sylvain Tronchet avec Anastasia Sedoukina. À la réalisation, Gaëtan Colli. Attaché de production, Martine Messonnier. Mixage, Pierrick Charles. Pour réécouter cette émission, les précédentes ou les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Interception sur l'appli Radio France.